L'enfant était prise d'un grand sommeil.
Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Et à tous, bienvenue dans la causerie sur Radio Canu 102.2. Et ouais, à 22h tous les dimanches.
C'est là, on a perdu.
Pardon. Et donc ce soir à la causerie, nous avons Fab.
Salut.
Et puis Jean-Yves à la technique.
Bonsoir. Et Jonathan qui a ouvert cette causerie.
Et oui, tout à fait. Donc si vous ne nous écoutez pas sur les ondes FM, eh bien vous pouvez nous retrouver sur...
Sur le blog, tu voulais dire, c'est ça?
Sur
radiocanu.org.
Voilà. Mais c'est là aussi où on retrouve les blogs.
C'est vrai, sur radiocanu.org, mais c'est surtout sur blogs.radiocanu.org/la causerie, par exemple, si tu trouves la causerie, ou tu vas sur le site de Radio Canu et tu cherches les blogs des émissions.
Ouais.
Et on est dedans.
Et comme ça, eh ben, vous pouvez nous envoyer des messages. Et vous pouvez aussi nous envoyer des messages à...
Bah, par mail à lacauseriecanu, tout attaché et en minuscule. Donc, lacauseriecanu@gmail.com. Et on est aussi sur un des réseaux dits sociaux, social.
Ouais, Facebook, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ben voilà, vous y trouvez en fait juste à chaque fois les podcasts des semaines précédentes.
Ouais, par contre, on va inviter les gens, si c'est possible, de laisser plutôt des commentaires sur le blog. Et notamment quand on a des invités, parce que c'est plus pratique pour eux pour retrouver les commentaires que vous avez, voilà, que quand vous les laissez sur Facebook, parce que tout le monde n'a pas Facebook et certains de nos invités non. Voilà.
Oui, et puis quand vous laissez un commentaire sur le blog, bah, ça rapporte du pognon à personne et c'est juste un truc à Canu, quoi.
Voilà.
Et bien j'espère que vous avez bien noté tout ça. Et ce soir, on attaque l'émission avec Fab qui va nous parler de la Somalie.
Oui, tout à fait. Alors par contre, je vais d'abord faire un préambule. Alors, je suis clairement pas un spécialiste de la Somalie. Je vais parler en mon nom et très clairement, si quelqu'un souhaite compléter ce que je dis ou me contredire, apporter des précisions ou infirmer des choses que je vais dire, eh ben, elle peut le faire justement via le mail lacauseriecanu@gmail.com ou sur le blog de l'émission. Ce sera avec plaisir parce que voilà, j'ai essayé de regrouper des infos, mais je peux m'être planté. Oui, je vais vous parler de la Somalie. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est par rapport à l'attentat qu'il y a eu à Mogadiscio, mais je voulais revenir un petit peu en arrière et essayer de poser les choses. Donc ça va être un sujet un peu long, je le dis d'avance, qui sera coupé par une petite musique, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Je flippe à mort. Donc on va commencer avec un peu d'histoire. Donc déjà la Somalie, de son nom réel aujourd'hui, la République fédérale de Somalie, est un pays qui se trouve, pour ceux qui ne le savent pas, à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique. C'est en gros, elle est entourée de l'Éthiopie, à l'ouest, au nord c'est Djibouti, et au sud c'est le Kenya. Voilà, si vous voyez, c'est au bord du détroit d'Aden. Durant l'histoire, elle a toujours été un lieu de commerce, du fait de sa très grande côte, hein, qui donne justement sur le détroit d'Aden, comme je disais. Et j'en avais d'ailleurs parlé à l'époque où j'ai parlé du Yémen. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Yémen, c'est de l'autre côté du détroit. Et dès l'Antiquité, les empires égyptiens, romains, grecs et indiens viennent placer des émissaires et monter des ports sur le territoire. Donc on voit que c'est une zone qui a toujours été une zone d'échange et notamment de croisée culturelle, parce que quand il y a tous ces gens qui se croisaient par les marchands, c'est logique. C'est aussi un lieu de la piraterie, hein, durant plus de 16 siècles et donc encore aujourd'hui, la Somalie a été un des lieux, aurait été un des lieux où s'était monté un Libertalia. Vous savez, ces fameuses zones franches pirates qui dataient du 12e, entre le 12e et le 16e siècle. Voilà, donc on pense qu'il y avait un Libertalia aussi en Somalie. Durant l'histoire, ce sont les marchands et commerçants arabes qui s'installent sur la côte à partir du 13e siècle qui vont importer l'islam en Somalie. Alors la particularité, c'est que l'islam en Somalie n'est pas au départ un islam, on va dire, wahhabiste ou fondamentaliste ou autre, parce qu'on parle du 13e siècle, donc en gros c'est un islam de marchands, comme on disait à l'époque. Donc c'est un islam plutôt à la cool, quoi, et un petit peu comme beaucoup de zones de l'époque. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre dans la bouche des gens d'extrême droite, un islam conquérant du tout. C'est juste des gens qui s'installent et puis les gens trouvaient ça assez cool, les rites, comme on disait. Donc ce qui va expliquer en partie d'ailleurs les tensions avec l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie qui est juste à côté, elle va rester majoritairement chrétienne et juive. Voilà, donc forcément, déjà ça va plus tard commencer à se tendre un petit peu. Dès 1875, j'ai oublié un truc. Donc, les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie vont commencer à partir du XVIe siècle. Je vous le dis, ça a une importance sur la suite et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces tensions-là. Dès 1875, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie colonisent la Somalie. C'est l'Italie qui installera une colonie définitive en 1908. Mais la particularité est que les deux autres pays colonisateurs, c'était une colonisation qui avait pour but de récupérer les richesses somaliennes, mais aussi de contrôler les mers avoisinantes, hein, parce qu'on voyait bien où on se trouve, eh ben, elles auront un droit de rester sur le sol somalien. En fait, on va subdiviser la Somalie en plusieurs territoires. Il y a une partie qui sera anglaise, une partie italienne, une partie française, des ports qui seront anglais, des ports qui seront français. Enfin, c'est un peu le beans. Et oui.
En fait, c'est toutes les forces en présence se partagent les.
C'est les grandes puissances coloniales,
oui,
en fait, qui
se partagent le territoire. Quoi.
Sachant que les Allemands et les Hollandais ne sont pas venus juste parce qu'en fait, c'était trop loin pour eux. Non, mais vraiment, j'ai retrouvé ça. C'est-à-dire qu'il y avait une notion que ça les intéressait pas. Il n'y avait pas d'intérêt pour eux. Alors que les trois autres puissances coloniales avaient un intérêt à aller à servir ces peuples-là. Donc voilà, c'était juste dégueulasse, mais bon, c'est l'histoire. Donc, et ça a une importance aussi sur la suite. D'ailleurs, le Nord, qui est aujourd'hui appelé Somaliland, était une colonie britannique en fait, parce que les Britanniques n'ont jamais quitté le Nord. En 1940, elle sera envahie par un bataillon de 40 000 soldats italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste pour vous dire que en fait la région n'a jamais été vraiment calme parce qu'en de tout temps en fait il y a eu des échanges de puissance et en particulier dans la période coloniale où effectivement bah là on voit bien que c'est en permanence en train de se taper dessus, de prendre des positions de pouvoir et des choses comme ça. Donc en fait bah, à la défaite de Mussolini en Italie, les Britanniques arrivent à repousser les troupes italiennes qui sont en pleine débâcle. Hein. Mais étonnamment, la Somalie va rester en grande partie sous tutelle italienne à la sortie de la guerre, parce que l'ONU va donner un mandat à l'Italie pour maintenir la Somalie sous tutelle. Donc c'est un petit peu le même régime qu'avait la Tunisie pour la France, c'est-à-dire c'était une tutelle protectorat français, comme on disait, et là c'est un protectorat italien. Oui.
C'était aussi le cas pour l'Éthiopie, non ?
Parce que oui, alors c'est plus compliqué. L'Éthiopie a obtenu.
Mais
je peux parler un petit peu de ça, mais c'est aussi ce qui crée des tensions. C'est que l'Éthiopie a obtenu avant la Somalie son indépendance. Okay. Voilà, dès les années 40, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est autour des années 40-50, alors que la Somalie est restée sous un protectorat jusqu'en 1960.
Oui.
Vous voyez, donc c'est un petit peu particulier. Donc en 1960, la partie britannique, le nord de la Somalie, en fait, gagne son indépendance. C'est le fameux retrait du Commonwealth. Donc les Anglais, ça leur coûte trop cher de maintenir des colonies, parce qu'on vous rappelle qu'on ne décolonisait pas juste pour le plaisir, c'est parce que ça coûtait cher d'avoir des colonies et qu'en fait, les grandes puissances, elles ont dit on s'en va, et que c'est pas par bonté d'âme. Donc du coup, le Somaliland se retrouve, qui est la plus grande partie de la Somalie au nord et qui est la plus riche aussi, se retrouve en fait donc indépendante. Et elle va par un effet domino entraîner le fait que toute la Somalie va aller vers son indépendance. Donc en 1960, c'est la réunification du pays, du nord au sud de la Somalie, et en fait c'est le moment où en fait toutes les régions de Somalie sont indépendantes de fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de colonisateurs sur le territoire. Donc de 1960 à 1969, deux présidents, Aden Abdullah Osman Dar, puis Abdi, excusez-moi pour les prononciations, Abdi Rachid Ali Cherkmak, tente de mettre fin en fait aux tensions qui existent au sein de la Somalie et instaurer un régime démocratique. Mais en fait, c'est un échec en grande partie par la reprise des luttes claniques, c'est-à-dire que il y avait déjà des clans en Somalie. Pendant la période coloniale, ces luttes-là se sont ont tendu à disparaître. Et dès qu'en fait la Somalie a retrouvé son indépendance, les clans en Somalie sont repartis de plus belle pour prendre les territoires et prendre les richesses là où elles se trouvaient, et notamment entre le nord et le sud de la Somalie, qui sont en fait, c'est très bien étrange, la Somalie est coupée un peu en deux, beaucoup de richesses au nord, beaucoup de richesses au sud et rien entre les deux. Enfin, je schématise, mais il n'y a pas grand-chose entre les deux, à part les ports et la côte, mais en fait, il n'y a pas de richesse de souterraine ou des choses comme ça. Donc, du coup, c'est la lutte entre les clans pour récupérer qui aura les plus grosses parts dans tout ça. On va rappeler ce qu'est un clan, parce que ça peut paraître bizarre. Contrairement à ce que l'on entend avec l'exotisme habituel, non, ce n'était pas des guerres ethniques en Somalie, ce sont bien des guerres claniques. C'est-à-dire que quand vous appartenez à une famille, une sorte de famille, alors que vous soyez sur la branche directe ou un arrière-arrière petit cousin par alliance du 50e degré, vous appartenez à un clan, à une voilà ce qui est ce clan-là. C'est un peu comme en Sicile, vous savez, le clan de Sicilien, c'est pareil.
C'est les MacLeod.
Ouais, c'est ça, ou en Écosse d'ailleurs, ouais. Les familles écossaises, c'est exactement la même, c'est le système clanique. Et donc en fait, ce qui est étrange, c'est que vous pouvez passer d'un clan à l'autre selon comment vous vous mariez. Oui, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, le clan est donné par le mari. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes d'un clan X et que vous mariez avec un homme d'un clan Y, et vous êtes du clan Y. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc en fait, c'est un échec parce que forcément, tout le monde se tape dessus et la décolonisation ne s'est pas faite du tout dans des très bonnes conditions. Et puis les puissances coloniales n'ont pas aidé non plus. Hein. C'est-à-dire qu'elles armaient petit à petit qui les arrangeait selon ce qu'elles voulaient continuer à récupérer sur le sol somalien. À partir de 69, là c'est le général Mohamed Siad Barré qui s'empare du pouvoir par un coup d'État et qui va remplacer le gouvernement élu démocratiquement par le nouveau régime de la République démocratique de Somalie. Voilà, qui s'appellera aussi République démocratique Somalie, sont le 2. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du fait des liens étroits qu'il entretient avec l'URSS, surtout pour l'armement, on va être très clair, il imposera un régime de type socialiste, entre guillemets. Mais en fait, il s'inspire clairement plus du stalinisme en termes de méthode politique que du socialisme libertaire. Alors, persuadé de devoir récupérer tous les territoires historiques de la Somalie, alors qu'il faut être très clair, personne n'était capable de dire qu'est-ce qui était somalien, qu'est-ce qui n'était pas somalien. Les frontières n'existaient pas en Afrique avant la période coloniale. Je vous rappelle, c'était des grands empires, ce qu'on appelait les empires flous. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas bien à fixer où se trouvait le début et la fin d'un empire. Donc du coup, lui, il décide, j'estime que l'Ogaden, voilà, qui est un territoire qui est en Éthiopie, est en fait un territoire somalien. Voilà, il a décidé ça un matin. J'ai l'air de déconner, mais en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Hein, donc voilà. Donc il va envoyer ses troupes envahir l'Ogaden. Alors étonnamment, c'est un des territoires les plus riches d'Éthiopie. Ça doit être un coup du hasard qu'il voulait le récupérer. Voilà. Et en fait, le gouvernement éthiopien, lui, il est aussi à l'époque d'inspiration marxiste. Et en fait, l'URSS va décider de soutenir plutôt l'Éthiopie que la Somalie. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'URSS importe beaucoup plus de denrées et de matières premières qui viennent d'Éthiopie que de Somalie. Donc, il joue la carte de celui qui l'aime le plus, hein, tout simplement. Je vous rappelle que
l'URSS. Celui qui rapporte le plus.
Et celui qui rapporte le plus, parce que l'URSS avait quand même un rôle d'empire. Enfin, c'était une forme de.
C'était une grosse puissance.
C'était de l'impérialisme, en fait. Donc, voilà. Et donc, du coup.
À la tête duquel il y a eu ce cher Lénine,
par exemple, et plein d'autres après. Et donc, à l'époque, on est plutôt sous Staline d'ailleurs. Donc en fait, ça avance bien pour eux parce que du coup, ils soutiennent tellement bien l'Éthiopie que Barré avec ses troupes, il se retrouve complètement dans la mouise parce que la guerre va durer pendant des mois et des mois. Sauf qu'en fait, lui est de moins en moins armé parce que la plupart des armes de Somalie venaient de l'URSS et l'Éthiopie se retrouve à être être armé par l'URSS. Donc du coup, vous imaginez un petit peu le déséquilibre qui se passe. Donc Babaré, il va rompre tous les liens de la Somalie avec l'URSS, parce qu'il est un peu vexé quand même. Et aussi facilement qu'il s'était dit soviétique, ça lui a pris à peu près 15 jours, il décide que son pays sera la Californie d'Afrique. Et il entame un rapprochement très rapide avec les USA. Bah oui, quand on se fait... quand on perd d'un côté, à l'époque, c'était ce qu'on appelait le monde bipolaire. Donc quand vous aviez plus le soutien de l'URSS, vous alliez chercher le soutien des USA, c'était pas vachement pratique. Puis ils sont pas trop fait prier, les USA, pour venir, vous imaginez bien. Et en fait, cette guerre, elle a tellement déstabilisé tout le pays qu'elle va favoriser l'installation d'une famine durable et mortelle de plusieurs années, dont le paroxysme sera atteint en 1984. Pour ceux qui, comme moi, étaient nés, on se souvient des images qu'on pouvait voir à la télévision et puis des appels à l'aide qu'il y avait eu pour l'Éthiopie comme pour la Somalie, parce que la famine va s'installer des deux côtés chez les deux belligérants, parce qu'en fait, bah, on se tape dessus, mais on fait plus de route, il y a plus de paysans qui font pousser quoi que ce soit, donc au bout d'un moment, bah, c'est la famine. Voilà. À partir de cette date, en fait, à partir de 1984, l'État somalien n'existe plus vraiment, et c'est l'installation de plusieurs seigneurs de guerre sans idéologie ni autres ambitions que leur enrichissement personnel et la soif de pouvoir sur tout le pays. Donc voilà, en gros, bah, comme l'armée est en débâcle, bah, ceux qui ont les armes, ils les gardent et ils se prennent des territoires. La Somalie n'existe plus vraiment en tant qu'État unifié, et entre les années 80 et jusqu'à l'explosion de la guerre civile en 1992, en fait, tout va partir à volo. C'est-à-dire que plus aucune route ne sera entretenue. Et quand je dis plus aucune, c'est plus aucune. Le système ferroviaire somalien va cesser d'exister. Les ports certains vont fermer parce qu'ils sont pas entretenus non plus. Simplement parce qu'on est plus dans le pillage permanent que dans l'envie de faire des choses en collectif. Donc en 92, c'est la mort de Barré, du fameux général qui avait pris le pouvoir par un coup d'État. Et le peu de pouvoir qui restait de son régime s'effondre complètement. Et l'affrontement entre les partisans de la faction qui soutenait le président intérimaire Ali Mahdi Mohamed et la faction qui soutenait le général Mohamed Farah Aidid débouche sur une guerre civile. Alors ce conflit était en fait le reflet de la rivalité en réalité entre deux clans les plus importants, la famille Awi Abdal et Aber Gidir, pour le contrôle de l'État somalien. On voit ces deux grands clans qui vont s'affronter pour prendre le pouvoir. On revient aux luttes claniques. Alors, ça veut pas être bizarre, je vous parle de tout ça, mais d'ailleurs, ça a vraiment un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui en Somalie. Donc, la guerre civile va faire rapidement des milliers de morts. Elle relance évidemment la famine. Parce que généralement, les guerres, ce qu'elles arrivent bien à relancer, c'est le marché des armes et la famine. Hein. Donc, voilà. À noter que la famine est plus due, donc, du coup, à une désorganisation des ravitaillements du pays qu'à un réel manque de ressources agraires. Parce que la Somalie peut parfaitement, aujourd'hui, cultiver pour nourrir sa population. Face à ce risque, l'ONU lance sa première mission d'intervention humanitaire de casque bleu. La toute première a été lancée en Somalie. Ce sont les soldats pakistanais qui sont retenus pour aller tenter de ramener la paix par interposition, si possible non violente. Mais les pertes pakistanaises sont très rapidement énormes, et du coup, les grandes puissances, comme on dit, décident de se mêler de tout ça. Alors ce sont les USA qui vont y aller, et ils vont lancer la fameuse opération, pour ceux qui ont vu les films ou qui se rappellent de cette époque, Restore Hope, restaurer l'espoir. Voilà. Donc ils vont... rentrer en Somalie et tenter de prendre la capitale, Mogadiscio. Seulement, c'est un fiasco total. La bataille de Mogadiscio en octobre 1993 reste un souvenir d'une débâcle totale de l'armée américaine. Pourquoi ? Parce que l'armée américaine, elle est habituée à faire des guerres, on va dire, tactiques, mais pas des guérillas. Et elle se fait complètement laminer, parce qu'en réalité, bah, la Somalie, c'est un terrain de guérilla plus que de guerre, parce qu'en fait, c'est plein de petits groupes armés qui se déplacent très vite, qui connaissent le terrain, et ils sont laminés. Et donc, d'ailleurs, Bill Clinton va ordonner le retrait des troupes américaine dès la fin de la bataille de Mogadiscio, c'était en octobre 93, et demander le remplacement par 8000 casques bleus. Ce qui va être fait. Il y a une toute petite erreur qui est commise à ce moment-là, c'est qu'il y a quelques soldats éthiopiens qui sont pris pour être casques bleus, et en fait ils sont vécus comme une puissance d'à côté qui essaye de prendre la Somalie. Bah oui, parce que je vous rappelle que depuis le 16e siècle, ils s'aiment pas, donc c'est un peu compliqué, hein, ça commence à aller mieux d'ailleurs, mais ça va peut-être finir par aller bien. Donc le pays est alors divisé en plusieurs factions, en guerre les unes contre les autres. Le centre et le sud sont contrôlés par Hussein Mohamed Aidid, dans celui dont je vous parlais. Le nord-ouest par Mohamed Ibrahim Egal, élu président de la République autoproclamée, qui s'est autoproclamé en fin 91 du Somaliland. Et il est élu en 97. Alors il y a une particularité, c'est qu'il est élu sans réelles élections. Ça c'est drôle, parce qu'il est élu par un vote à main levée. Mais on ne sait pas de qui, ni quand, ni pourquoi. Mais voilà, bref. Lui va mourir en 2002. Voilà. Et en janvier 1997, il y a un accord de gouvernement qui est patronné par l'Éthiopie et le Kenya qui échoue à régler le problème du désarmement et de la reconstruction de l'État. Donc on voit que ça patine à mort quand même, quoi. Le Nord-Est se déclare autonome en 1998 sous le nom de Puntland. Et le 26 août 2000, le Parlement de transition, en exil, parce que comme c'est la guerre partout, il élit un nouveau président en la personne de Abd al-Kassim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile, hein, parce qu'il n'y a plus de pays, il n'y a plus d'infrastructures, c'est très complexe. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques, encore une fois, et après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit enfin en juillet 2003. Vous avez noté le nombre d'années qui ont duré les affrontements, un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied une institution fédérale de transition. Voilà, c'était ça qui était important, c'est qu'en fait, pour résoudre des problèmes de clans, des fois, il suffit juste de se dire, et si on faisait un pays tous ensemble, mais où on laisse une autonomie assez forte à droite à gauche, vous voyez, c'est un peu comme ce qu'on fait en Europe, hein, pour prendre le truc. C'est un peu d'ailleurs des négociateurs européens qui vont mettre cette idée sur la table. Bon, je termine, j'en ai pas presque fini. Entre 2004 et 2006, le duo à la tête du pays, Abdou Lali Youssouf Ahmed, qui est président, et Ali Mohamed Guedi, qui est premier ministre, entament un vaste plan de mise à plat des institutions et la mise en place d'un fédéralisme réel. Parce que ça se décrète pas du jour au lendemain, hein. C'est qu'il faut mettre tout à plat, tracer les frontières, du coup, aussi internes du pays. Donc c'est un peu compliqué. C'est un gouvernement de transition, évidemment. À noter, en 2004, c'est quand même aussi l'année où le tsunami a touché les côtes somaliennes. Et ça, personne s'en souvient, parce qu'on se rappelle de la partie de Phuket, de l'autre côté. Sauf qu'en fait, la Somalie a été touchée et ça a dévasté la seconde économie du pays, c'est la pêche, en faisant des centaines de morts. Je vais terminer sur une partie, je couperai après. En 2006, c'est l'arrivée des islamistes en Somalie, et c'est assez nouveau pour la Somalie, parce que, comme je vous le disais, ils avaient jusqu'à maintenant un islam plutôt proche du soufisme, ou d'un islam, comme on dit, entre guillemets, à l'africaine, comme disent certains représentants de l'islam, qui était plutôt islam très très ouvert, très tolérant, mélangé avec de l'animisme et des choses comme ça. Et en fait, là, c'est des fondamentalistes qui vont commencer à arriver, et qui vont prendre Mogadiscio. Et d'ailleurs, ça va créer d'un côté une alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme, qui est la RPCT, et plusieurs chefs de guerre qui vont s'allier ensemble pour essayer de contrer la montée des islamistes de l'Union des tribunaux islamiques. Sauf qu'en fait, ils vont être beaucoup mieux armés que les islamistes, et ils vont gagner, ils vont prendre le contrôle de Mogadiscio, et instaurer la charia. Et ils vont y instaurer en fait quelque chose qui existait plus ou moins, entre guillemets, qui s'appelle la chaféite, qui est une sorte de charia claniste et liée aux moyens financiers que vous possédez. Selon si vous êtes riche ou pauvre, vous n'êtes pas jugé pareil. Voilà. Alors ils font ça parce que comme ça leur permet de faire taire les clans. Vous voyez, c'est pas bête, hein, quelque part. Le 13 juin 2006 à Nairobi, l'autorité intergouvernementale pour le développement, qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ces pays aux milices de l'ARPCT, donc c'est-à-dire ceux qui luttaient contre les islamistes, qui sont en train de fuir devant l'avancée des islamistes. En fait, c'est totalement pourri, parce que le but, c'est qu'ils se fassent massacrer ou arrêter. Comme ça permet en fait au gouvernement de transition de reprendre la main sur la Somalie, tout simplement. Voilà. Donc je vais aller un petit peu plus vite. Fin décembre 2006, c'est l'armée éthiopienne va intervenir contre les tribunaux islamiques, et c'est eux qui vont faire fuir de Mogadiscio les tribunaux islamiques, et c'est là en fait que l'armée éthiopienne est du coup vue comme une armée d'invasion de nouveau. Bah oui, parce qu'ils rentrent sur le territoire pour chasser. Donc depuis, se succèdent à la tête du pays plusieurs présidents avec plus ou moins de logique. Par exemple, on a un ancien des tribunaux islamiques qui se retrouve président de la Somalie un temps, donc c'est assez bizarre. Et le président actuel, qui est Mohamed Abdoulali Mohamed, est élu président en 2017, et lui par contre, il est présenté comme un centriste modéré, et c'est le premier qui depuis quand je vous parle, 1960 à 2017, arrive enfin à pouvoir mettre en place réellement et concrètement le plan de mise en fédéralisme de la Somalie. Donc vous voyez, voilà. Je voulais aller jusque là, on va faire une petite pause musicale, je reviendrai après. Mais c'était juste pour qu'on puisse toucher du doigt pourquoi la Somalie c'est compliqué et pourquoi ça reste très complexe à appréhender. Parce que c'est un pays qui, depuis en fait des centaines d'années, n'a jamais trouvé de réelle stabilité. Voilà. Musique ?
Allez. se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore, pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, blancos, bougnoul ou bien nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des youyou stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanouchien vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fait fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux armes miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous adhérer des luttes. Donc nous on prend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui prend le choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Codépendant des OGM pour nous doper, j'ai recraché la skate, monté le cheval et galopé. Braqué un RER, diligence, la pache de Belleville viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Voici dans la causerie avec Fab qui nous parlait de la Somalie.
Tout à fait, on vient d'écouter aussi Gaël Faye avec Irruption, c'était le titre, voilà. Un rappeur que je vous invite à découvrir qui est vraiment très très bien.
Ouais, une belle écriture, ouais. Un peu conscient le rap.
Ah oui, c'est du rap conscient, ça c'est comme on dit. Je sais pas ce que veut dire le rap inconscient, mais en tout cas ça c'est du rap conscient.
Bah c'est pas un rap qui parle de cul, de meuf et de pognon en fait.
Bah ça c'est pas du rap ça. Enfin, bref. Ouais, je reprends sur la Somalie. Alors, donc je vous parlais de Mohamed Abdulali Mohamed, hein, qui est donc maintenant le président élu depuis 2017. Alors je vais juste préciser une chose, malgré le fait qu'il y a des choses qui avancent, la Somalie est classée comme le pays le plus corrompu du monde. Voilà, dans le classement, un des pays les plus corrompus. Enfin, un des, parce qu'il y en a d'autres autour, c'est pas, ça se joue à peu de choses près. Mais voilà, il faut savoir que la corruption a un poids énorme en Somalie aussi. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alors, je vais aussi vous parler des Shabab, parce que régulièrement, on vous parle de ces fameux terroristes Shabab qui sont, voilà, mais qui sont ces gens? Parce que c'est quand même plutôt intéressant de savoir qui c'est. Alors, les Shabab, en fait, sont un groupe qui a, sont issus des fameux tribunaux qui avaient instauré la charia en 2006 à Mogadiscio. Donc, ils sont nés en 2006, mais sont renforcés plutôt en 2009. Leur vrai nom, c'est le groupe islamiste Harakat al-Shabab al-Mujahideen, qui signifie mouvement de la jeunesse des Mujahideen. Voilà. Plus connu sous le nom de Shabab, la jeunesse, parce que ça va un peu plus vite. Voilà. Et il apparaît donc en Somalie en 2006 dans le siège de l'Union des tribunaux islamiques, et il contrôle alors Mogadiscio. C'est-à-dire que c'est un peu la police de ces fameux tribunaux. Voilà, une sorte de police militaire. Et donc, c'est eux qui vont être les fameux, comment on appelle ça, les ceux qui cherchent pour faire la charia, la police de la des mœurs.
Les miliciens.
Voilà.
C'est la police des mœurs.
Ouais, c'est une sorte de police des mœurs.
C'est ceux qui vérifient que les gens appliquent bien les règles.
Donc ils vont être issus de ça. Donc on voit qu'ils ils prônent plutôt un islam fondamentaliste, sont des extrémistes d'extrême droite, très clairement. Et voilà. Lorsque les troupes éthiopiennes pénètrent en Somalie pour renverser l'union des tribunaux islamiques et apporter leur soutien au gouvernement fédéral de transition, ce dont je parlais juste avant la pause musicale, les Shabab servent de branche militaire. Ils se transforment de police militaire à branche militaire armée radicale de l'union des tribunaux islamiques. C'est dans cette lutte contre les forces éthiopiennes que les Shabab s'imposent progressivement. Ils prennent de l'ascendant avant de devenir un groupe très puissant. Alors, c'est pas compliqué en fait, c'est qu'ils sont armés, et on découvrira après qu'ils sont armés principalement par Al-Qaïda, qui va les armer et les financer, voilà, parce que normal dans la région ils ont besoin un petit peu d'antenne. Parce qu'Al-Qaïda c'est comme Uber, ils aiment bien s'installer à droite à gauche, c'est pareil.
C'est des succursales.
C'est une succursale, ouais. L'Éthiopie va se retirer ses troupes du pays à la fin 2008, laissant la force de paix de l'Union africaine en première ligne face à l'insurrection islamiste. Parce qu'en plus, ils ont une sorte de double discours. Ils font et de l'insurrection armée et du combat armé. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc les Shabab le disent eux-mêmes, ils adhèrent à la vision salafiste de l'islam. Hein, c'est écrit en toutes lettres dans leur...
dans leur charte.
Ouais, c'est pas une charte, j'ai perdu le nom, pardon.
Dans leur règlement, dans leur convention.
Non, mais c'est leur sorte de constitution qu'ils ont du groupe, voilà.
Texte fondateur.
Texte fondateur, merci, c'est ce que je cherchais. Et leur objectif est d'instaurer un État fondé sur la charia. Voilà. Le groupe s'est également lié donc avec Al-Qaïda par l'intermédiaire de certains responsables de l'organisation à travers ses cellules en Afrique orientale. Le lien entre les Shabab et l'organisation djihadiste Al-Qaïda n'auront de cesse de se renforcer, et c'est en 2009 que le mouvement va carrément prêter allégeance à Al-Qaïda en disant « on est une branche officielle d'Al-Qaïda, on est une franchise, donc acceptez-nous ». Voilà. En septembre 2015, les Shabab ont nommé un nouveau chef, Ahmed Oumar Abou Oubaïda, après avoir confirmé la mort de leur chef suprême, celui qui était le fondateur, Ahmed Abdi Godan, qui a été tué par une frappe américaine. Voilà. Ils ont également renouvelé à cette occasion leur allégeance à Ayman al-Zawahiri, qui est le chef du réseau Al-Qaïda. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est comment ces gens arrivent à avoir des armes, par la mer. Je vous rappelle que la côte, elle est immense, donc en fait, c'est très facile d'avoir des bateaux qui accostent et qui vous livrent des armes. Parce que souvent, les gens disent, mais comment ils font? C'est pas très compliqué quand même, quand vous regardez la Somalie et son truc, voilà. Ils sont pas tant que ça, contrairement à ce qu'on croit, ils sont entre 5 000 et 9 000 hommes. C'est pas non plus phénoménal, parce que il faut savoir qu'en face, les forces de l'Union africaine sont trois fois plus, donc en fait il y a quand même un rapport de force. Mais par contre, ils connaissent beaucoup mieux le terrain et ils sont armés avec notamment beaucoup de choses qui permettent de ralentir la progression de n'importe quelle armée. C'est notamment des mines, parce qu'ils ont miné énormément de routes, de choses comme ça. Voilà. Ils sont responsables d'exactions qui ont marqué, comme par exemple le massacre du campus de Garissa, pour ceux qui se souviennent, qui était le 2 avril 2015, qui a coûté la vie à 188 personnes, dont 142 étudiants et étudiantes, voilà, qui ont été tués dans leur salle de classe. Et ils ont été tués parce que cette université était vue comme une université d'émancipation de l'esprit des jeunes. Voilà. Donc ce sont des gens très sympathiques, comme nous pouvons le voir.
Et qui est-ce qui leur donne toutes ces armes, leur vend?
Quand je dis c'est une filiale, c'est en fait le fameux réseau Al-Qaïda. Non mais ça peut paraître bizarre quand on dit ça, mais en fait on sait que qu'importe quelle idéologie politique peut avoir des liens et des soutiens. Et en fait, beaucoup d'observateurs estiment que, en fait, c'est pas très compliqué pour Al-Qaïda ou pour l'État islamique finalement d'aller acheter des revendeurs d'armes aux blacks, je sais pas comment on peut dire, des contrebandiers, marché comme on disait, de marché noir, des armes et de les faire livrer, quoi. Et honnêtement, vu la configuration de la Somalie, c'est assez simple à faire. C'est beaucoup plus dur sur des pays qui n'ont pas de mer, ou si vous n'avez pas d'accès à la mer. Là, en l'occurrence, les Shabab ont accès à la mer, donc ça simplifie. Et très clairement, comme ils ont prêté allégeance à Al-Qaïda, très clairement, tout le monde se dit ça vient de la maison mère. Non, mais pour faire du capitalisme, mais c'est ça. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'en fait, pour ceux qui ont suivi l'actualité, et le 14 octobre, la capitale somalienne est touchée par un attentat. Et c'est l'un des plus meurtriers du monde. Alors, c'est marrant parce que c'est un des plus meurtriers du monde, mais on n'en parle pas. C'est très bien, ou très peu. Et c'est surtout le plus meurtrier pour le pays. Donc à l'heure actuelle, le bilan s'élève à 358 morts et 228 blessés. Voilà. Mais il n'a toujours pas été revendiqué. Alors c'est ça qui est un peu étonnant. Compte tenu du climat de ce pays, qui, je le rappelle, est divisé en 18 régions administratives, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est à des tensions entre 4 clans principaux et 24 sous-clans, donc ça devient un petit peu compliqué, avec l'activité des Chababs qui, eux, aimeraient bien y mettre un État islamique régi par la charia en partout tout ça, l'intervention de la force africaine unifiée qui est au milieu de tout ça, les chefs de guerre qui continuent à être là parce qu'ils n'ont pas disparu totalement, eh ben on se dit pas mal de monde aurait pu faire cet attentat finalement quand même, hein, donc ça a beaucoup interrogé. Par contre, il y a des journalistes sur place et aussi des politologues, comme on dit, enfin des gens qui étudient un petit peu ce qui se passe, qui estiment qu'en fait, compte tenu de ce qui s'est passé et compte tenu de la méthodologie employée, c'est-à-dire un camion bourré d'explosifs et de produits inflammables, bah c'est une technique que les Chababs utilisent extrêmement souvent. Donc les journalistes disent ce serait étonnant que ce soit pas eux, ou alors c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire exactement comme eux. Mais enfin là, ils comprendraient vraiment pas pourquoi d'un seul coup quelqu'un aurait voulu faire exactement comme eux. Hein. Enfin voilà, bref. Mais en tout cas, ça tend à dire que ce serait plutôt les Chababs. Si personne n'a revendiqué, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est que beaucoup d'observateurs sur place disent que d'habitude, les attentats ne sont jamais faits à l'aveugle. Et généralement, ils visent des leaders politiques, des leaders de clans, des chefs de guerre. Il y a toujours un lien avec quelque chose, parce que c'est quand même des guerres de territoire, et que c'est rare qu'on fasse péter la population juste pour le plaisir de faire péter la population. Voilà. Donc les gens se disent, mais c'est assez étrange que ce camion a explosé au milieu de deux routes de Mogadiscio, à un endroit où il n'y avait pas spécialement ni de poste de police, ni... c'est assez étrange. Et d'après l'enquête qui a été menée sur place, alors je parle pas du tout de l'enquête officielle, parce que je vous rappelle que le gouvernement est pas très 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 sympathique et qu'il est un peu corrompu, donc ça l'arrange bien aussi cette histoire. Non, je parle vraiment d'enquête de journalistes de terrain qui eux disent que pour eux, très clairement, ce qui est arrivé c'est que le chauffeur a dû être repéré et qu'il a fait sauter son camion plutôt que d'être pris. Et donc il l'a pas forcément fait sauter là où c'était vraiment prévu. Et que ça expliquerait en fait pourquoi ça a explosé ici et maintenant. D'ailleurs, il y a des journalistes qui rappellent que depuis 6 ans, les Chababs, parce que c'est eux qui sont montrés du doigt, attaquent systématiquement des lieux de pouvoir et des officiels. Alors attention, ils font aussi des morts autour, hein. On l'a vu avec le massacre de l'université, mais dès que quelque chose est vu comme un lieu de pouvoir, une université, un ministère, quelque chose comme ça, ils s'attaquent à des symboles, ils s'attaquent pas à des gens dans la rue comme ça. Et donc,
oui, sur le marché...
Voilà, ils font pas péter des trucs sur les marchés, sauf si sur le marché, il y a un ministre en déplacement, ce qui a été le cas il y a pas très longtemps, vous voyez. D'accord. Mais en général, on arrive toujours à faire le lien avec quelque chose qui a une logique. Et là, il n'y a pas vraiment de logique. Donc en fait, les journalistes disent que c'est plutôt vraisemblablement une erreur, c'est-à-dire que le camion a explosé là où il n'aurait pas dû exploser. Ce qui explique sans doute le fait que personne ne revendique cet attentat, et vu que la population l'a vécu comme une tragédie énorme, mais surtout comme une espèce de réveil politique. C'est-à-dire que les gens ont dit non, mais là, oh, ça va. Hein, c'est bon, on va arrêter les conneries, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on est en guerre, on va peut-être se... Hein, voilà. Parce que la Somalie, comme sur tout le continent africain, c'est l'heure des printemps, comme partout ailleurs. Et en fait, c'est un peu idiot à mes yeux d'appeler tout ça printemps, parce que ça, c'est vraiment un truc d'occidental, parce que ça se passe pas au printemps déjà, et puis qu'en plus, ça a pas du tout la même configuration, mais c'est pour dire qu'en gros, il y a des révoltes, et il y a des gens qui se battent en ce moment. Et la population, en particulier les femmes, réclament des droits dans le pays depuis bientôt 2 ans, par des grèves, des actions de manifestation et des pétitions. Si cet attentat met un frein à ce mouvement, on voit bien que ce mouvement ne ferait l'affaire de pas grand monde en dehors d'une majorité de la population. C'est-à-dire qu'en gros, tous les puissants, là, les chefs de guerre et compagnie, ils ont pas trop envie que le mouvement il arrive au bout, hein, ni les Chababs, ni les chefs de guerre. Par contre, la population, elle a plutôt à y gagner, vous voyez. Étonnamment, plusieurs journalistes se demandent, compte tenu du quartier où a eu lieu l'attentat, si celui-ci ne visait pas en fait les leaders de ce fameux printemps. Parce que, bizarrement, en recoupant, ils se sont rendus compte que parmi les leaders, et notamment des leaders syndicaux, il y en a plusieurs qui habitaient le quartier où a explosé le camion. Alors soit c'est une erreur et il a pété tout seul, soit en fait il visait, mais il les a pas tués, donc du coup ils revendiquent pas non plus, vous voyez, c'est un peu bizarre, mais il y a cette question qui est sous-jacente. Alors le mouvement en question, le fameux printemps somalien, mais en fait en réalité le mouvement de révolte en Somalie, il est né d'un ras-le-bol des tensions entre les fous de Dieu et les clans, entre les chefs de guerre et les fous de Dieu, entre tout le monde qui se tape dessus, et en fait les gens en ont un peu marre. Et en fait, il y a aussi eu quelque chose qui a fait monter la colère en fait, c'est l'arrivée d'une nouvelle force impérialiste en Somalie, qui est la Chine. Et oui, parce que la Chine est arrivée en Somalie et elle délocalise énormément sur le territoire somalien et notamment dans le textile. parce que les ouvrières chinoises sont devenues trop chères. Donc on vient faire travailler des ouvrières somaliennes, parce que c'est majoritairement des femmes. Donc vous voyez, et là en fait ça a commencé à créer des tensions, et puis de dire mais non, mais attendez, ça suffit quoi. Déjà qu'on est en guerre, déjà que ça va pas, déjà qu'il y a encore des femmes, il n'y a pas de route, et ben non, on est exploité en plus par une force extérieure. C'est bon quoi, enfin vous voyez. Et c'est bien parce que ça a été vraiment quelque chose de plutôt très positif, parce que c'est tout de suite par l'action, par la lutte, par les grèves que se sont mis en place, une résistance, voilà. Et une résistance qui dépasse les clans. C'est surtout ça qui embête tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont des familles soi-disant opposées, bah, qui se retrouvent à s'unir dans le syndicalisme, par exemple, pour faire la grève face à l'oppresseur patronal. Vous voyez, donc voilà. À noter que qui contrôle la Somalie contrôle une bonne partie du détroit d'Aden, hein, je vous le rappelle. Mais aussi, donc, c'est pas étonnant que des puissances impérialistes, arrivent un petit peu comme ça, hein, la Chine. On voit revenir un petit peu les USA aussi, l'Europe qui commence à y mettre son nez, parce que le détroit d'Aden, ça intéresse tout le monde. Bon, la France, elle a Djibouti, donc elle s'en fout un peu, comme elle, voilà, elle y met pas trop les doigts, mais bon, voilà, mais quand même, c'est pas neutre non plus, quoi. Et si le pays est meurtri par des siècles de guerre, il n'est en rien un pays sans ressources. Ça, je voulais le dire, parce qu'en Somalie, il y a du pétrole, de l'uranium, de la bauxite et du cuivre. Tout ce qui est extrêmement nécessaire en ce moment pour faire des voitures, des ordinateurs et tourner des centrales nucléaires. Donc, vous voyez, ça intéresse beaucoup de gens. Tout attentat a un fond politique, ça c'est ce que je voulais arriver là quand même. Celui-ci en avait forcément un. Et faire comme si c'était le folklore local de faire péter des camions bourrés d'explosifs au milieu des marchés, refuser de voir les enjeux politiques qu'il y a derrière tout ça, c'est faire dans l'exotisme à minima, ou dans le mépris, hein, tout simplement. Parce que non, il y a bien des raisons politiques derrière les attentats. C'est pas juste un truc quand vous réveillez le matin sur France Info qui vous dit tiens, encore un attentat là-bas. Non, c'est qu'il y a une vraie guerre sous-jacente. Il y avait vraiment des gens qui souffrent et qui souffrent de ces guerres sous-jacentes. Et plus que jamais, les progressistes somaliens et somaliennes ont besoin que l'on parle d'eux. Donc renseignez-vous, faites sortir, expliquez aux gens qu'il y a des choses qui se passent là-bas et que c'est pas juste des gens passifs qui attendraient que ça se passe, contrairement à l'image qu'on essaie de renvoyer de toute l'Afrique et de la Somalie en particulier. Et qu'on les soutienne, parce que régulièrement, il y a des appels aux dons qui sont lancés par des syndicalistes somaliens ou des choses comme ça, ou somaliennes, notamment via l'association Action Aid, qui est beaucoup, beaucoup sur place. Et donc voilà, renseignez-vous, allez voir Action Aid et vous verrez que bah, vous pouvez aider des syndicalistes somaliennes, parce que c'est des femmes généralement qui luttent contre l'oppression patronale et qui essayent de ramener la paix dans leur pays en disant bah si c'est la guerre, nous on travaille plus. Voilà, c'est tout bête, mais ça marche, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Voilà, donc je voulais juste dire ça, et puis ben, ne pas oublier que si on joue trop l'autruche, en fait, ben, on vaut pas tellement mieux que les forces impérialistes qui vont dans ces pays-là, parce qu'en réalité, on a tous les moyens de savoir et tous les moyens d'aider, donc enfin d'aider, au moins de faire connaître. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir. J'espère que j'ai pas été trop long ni trop compliqué.
Puis ça vaudrait le coup, peut-être, de s'intéresser à une population qui, finalement... Eh ben, malgré des années, des siècles d'oppression religieuse et capitaliste, bah, finalement, finit par se rendre compte juste en bas de la rue que, bah, ils ont des intérêts communs.
Tout à fait.
Et qu'ils peuvent s'organiser sans pouvoir.
Mais je crois que c'est ça qui est important, et d'arrêter de penser qu'ils sont passifs ou qu'ils attendent ou qu'il se passe rien ou qu'ils luttent pas, parce que c'est un peu l'image qu'on essaie de renvoyer. Je trouve ça assez grave, et moi j'ai trouvé que la couverture qu'il y a eu sur cet attentat était assez terrible, parce que oui, on a éteint la tour Eiffel, bon, bah ça fait pas avancer le schmilblick, c'est sympa, hein, de dire oh il y a des morts, c'est pas bien, sauf que il n'y a pas eu d'analyse politique, il n'y a pas eu d'analyse de... On a dit, il y a eu un attentat à Mogadiscio. Voilà.
Bah, de toute façon, à partir du moment où ça se passe en Afrique ou au Moyen-Orient ou autre, en fait, on fait passer ça comme...
Bah, le folklore.
Oui, c'est ça, un folklore local, en fait, chez eux. Chez eux, c'est comme ça. Bien évidemment, c'est tellement plus simple.
Donc voilà, j'espère que... Bah, voilà, si vous avez d'autres informations, je suis preneur, hein, n'hésitez pas.
Vous, dans les pays civilisés. C'est horrible.
C'est horrible, c'est ça.
Un petit peu de musique.
Allons-y.
Been stabbing
Et de retour dans la causerie sur Radio Canu. Pardon, j'ai parlé, il n'y avait pas les micros. Voilà. Et donc c'était Marilyn Manson avec We Know Where You Fucking Live. Voilà, c'est le nouvel album de Marilyn Manson. J'en profite pour faire coucou aux Matin Lovers qui me l'ont fait découvrir. Mardi matin. C'est une émission sur Radio Canu tous les mardis matins de 8h à peu près à 10h à peu près. Et voilà, et c'est vachement bien. Et écoutez les Matin Lovers, et voilà. Mais ils l'ont passé, ils ont dit, ah, c'est le nouvel album, et j'ai trouvé ça très très bon. Ouais, sachant qu'il reprend juste une phrase de Donald Trump qui disait aux terroristes, nous savons où vous habitez, en détournant un peu le sens. Voilà.
Ok.
À toi Jean-Yves, tu veux nous parler des monstres.
Oui, c'est ça. Au vu de l'actualité, je voulais partager avec vous quelques éléments pour une réflexion autour de l'utilisation du mot, ben, comme tu le disais, monstre. Bon, là vous allez vous dire, ben, de quel monstre il parle en fait. Bon, ben, alors, je pense que je vais vous citer quelques exemples de titres issus de médias et qui vous éclaireront normalement. Alors le journal La Provence en 2014 titrait Marseille, le profil du monstre de l'adolescent violeur. France Info en 2015 titrait Agression sexuelle, 35 femmes décrivent le monstre Bill Cosby. RTL.be en 2017, c'était le monstre de Hollywood, le gros porc, le chauffeur français d'Harvey Weinstein témoigne. Donc vous l'avez compris, hein, ce soir je souhaiterais donc interroger, et plus, l'utilisation du mot monstre lorsque l'on parle de crimes sexuels présumés ou condamnés. Et on peut alors élargir l'utilisation de ce mot et les réflexions qu'on aura ce soir pour tout ce qui relève de la chosification des gens. Ça va du crime du viol, au crime de masse organisée ou au génocide comme les Tutsis et les Hutus ou encore les crimes nazis. Hein, on est toujours dans la chosification des gens. Donc, souvent, moi, je me demande si l'utilisation de ces mots, hein, ou de ce mot comme monstre ou encore bête,
lorsqu'on parle de viol, est-ce que ce serait pas là pour nous en éloigner, en fait ? Est-ce que ces mots seraient pas utilisés pour ne pas voir l'ampleur du problème, en fait ? Pour pas aller à la racine ou aux racines du problème et du crime ? Est-ce qu'on n'utiliserait pas les mots monstre, bête, pour ne jamais y apporter de réponse, de solution, tant sur le plan juridique que sur le plan éducatif et social ?
Pour laisser quelque part un être chimérique responsable de mots monstrueux.
C'est ça.
Et donc pas humain.
Parce que c'est
très humain.
Parce que justement, en désignant les agresseurs et les agresseuses, les violeurs et les violeuses comme des monstres, on les désigne comme des êtres à part, comme des pas humains. Ça évite évidemment de constater que majoritairement les viols sont commis donc par des monstres, et ces monstres sont des amis, des connaissances, des parents de victimes dans plus de 90% des cas. Donc des gens bien humains, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Moi, ils me semblent humains tous ces gens. Et si c'est un ami, un parent, une connaissance, c'est que c'est pas un viol alors. Parce que si on vivait avec des monstres à nos côtés, on s'en rendrait compte, non ? Si c'est pas ça, alors c'est quoi, en fait ? Et si les chosificateurs, les violeurs, les agresseurs sont des monstres ? Cela aurait pu se voir ? Aurait dû se deviner ? Et si c'est un parent, un ami ? Ça aurait dû se voir, se deviner. Et si les victimes ne les ont pas remarqués, ne les ont pas démasqués, c'est peut-être que les victimes, elles étaient peut-être finalement consentantes, en fait.
Ou pas vigilantes.
Donc, elles sont responsables, en fait. Donc, c'est encore une manière de continuer de rendre les victimes, responsables du crime dont elles sont victimes, pour pas, encore une fois, aller à la racine. Voilà encore une fois de quoi nourrir la culpabilité que peuvent développer certaines victimes, je ne vais pas dire toutes, mais certaines, et qui les enfonce, cette culpabilité qui les enfonce en fait dans le mutisme, et ce qui finalement ne déplaît jamais aux dominants, aux personnes qui choisissent les victimes. Bref, tout va mieux pour les agresseurs. Et si alors les agressions sexuelles, les viols, sont faits par des monstres, est-ce qu'on ne sous-entendrait pas qu'on ne peut pas y faire grand-chose, en fait ? Parce que les monstres sont des monstres. Ils fonctionnent pas comme nous, comme les autres, comme les êtres humains. Et si c'est pas naturel ? Naturel dans le sens humain. Si c'est pas naturel, qu'est-ce qu'on peut donc y faire ? Là, évidemment, j'entends les autoritaires de tout poil qui répondront « peine de mort ». Oui, forcément. Là encore, la peine de mort, encore une nouvelle manière, une autre manière d'éliminer les problèmes, sans jamais s'interroger, sans jamais modifier nos rapports humains, sans jamais apprendre à tout le monde qu'une personne est libre et que sans consentement, rien ne doit être fait.
Puis de manière, encore une fois, un peu chimérique, parce que ça rappelle la quête, on va dire, du prince charmant ou du chevalier qui va tuer le monstre. Ça n'a rien de réel, alors qu'en... Plusieurs expériences dans plusieurs pays ont montré que non, des humains qui souffrent de troubles tels que un besoin de domination comme ça, sont non juste des personnes à remettre dans le cadre.
Alors je sais pas si c'est un trouble, en tout cas effectivement c'est un excès de pouvoir et de besoin de contrôle des gens. Et d'ailleurs, alors je continue mes réflexions que je partage avec vous. Et si d'ailleurs les agresseurs, les violeurs sont des monstres ? C'est qu'ils sont donc pas nombreux, parce que quand même, s'il y avait beaucoup de monstres, on les verrait. Donc c'est que c'est pas un phénomène de masse. Mais si c'est pas un phénomène de masse, en fait, comment est-ce qu'on explique en fait le nombre de victimes, de tentatives de viol et de viol, en fait ? Un nombre qui oscille quand même entre 77 000 et 84 000 pour les femmes victimes de viol ou de tentatives de viol, et plus de 10 000 pour le cas des hommes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Et on pense évidemment que ces chiffres sont forcément sous-estimés. J'ai des chiffres depuis 2012 jusqu'à 2016 et 2016. Et en fait, le nombre de plaintes augmente. Donc ça, c'est plutôt un bon
signe. C'est positif, ça veut dire que la barrière du silence est en train de se briser petit à petit.
Bah, c'est exactement ça, parce qu'en fait, alors, on peut avoir plusieurs réflexes, se dire, bah, tiens, en fait, si ça augmente, c'est que le nombre de tentatives de viol et de viol augmente.
Ah, ça, fait... ça, c'est Éric Zemmour. Ça.
Ouais.
c'est pas bien.
Et en fait, les associations pardon, d'aide aux victimes, en fait, elles sont un peu, enfin, c'est ce qu'on disait là, c'est que c'est pas le nombre de viols qui augmente ou de tentatives de viol, c'est plus effectivement la parole qui se libère en fait, et ça c'est positif.
Ce qu'on va rappeler quand même, c'est des chiffres qu'on avait déjà donnés, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des victimes qui portent plainte, on le sait, donc ça veut dire qu'on sait que le nombre de viols, vous multipliez par 10 le chiffre que vous voyez, donc je sais pas combien c'était en 2016, mais...
En 2016, les infractions elles sont passées, alors c'est les signalements, hein, donc ouais. À la police en 2016, elles étaient de 15 000. Ouais. 848.
Donc, mais c'est au moins 150 000, quoi, si vous voyez, si on peut estimer ça. Donc, effectivement, ça laisse une marge énorme de gens qui ne parlent pas et qui, là, se mettent à parler. Ça veut pas dire que d'un seul coup, c'est juste, il faut être logique dans ce dont on parle, et c'est juste ça. Et c'est effectivement la parole qui se libère, et c'est super important.
Bah ouais. Donc, vous aurez compris, hein, que l'utilisation des mots comme bête, comme monstre, nous évite surtout, selon moi, hein, je le précise, bah de ne pas parler de la prise de pouvoir sur une autre personne, la chosification de celle-ci, que sont le viol, l'agression sexuelle. Que cette prise de pouvoir, cette chosification, sont bien les faits des humains et des humaines, ça, on est certain. C'est pas non plus un épiphénomène. Quand on a autant de victimes, c'est pas un épiphénomène. Ou alors c'est que les morts de la route, c'est rien du tout. Et si tout cela est commis par des semblables, hein, par des humains et des humaines, donc, c'est qu'on peut y apporter des réponses, des solutions progressistes et révolutionnaires, je le pense vraiment. Nous pouvons donc changer les sociétés où l'éducation entre les filles et les garçons hétérofertiles d'une société sexiste. On l'a très bien vu, on en a aussi parlé avec Anne, etc., plusieurs fois dans la causerie aussi, cette différence d'éducation. On peut aussi, peut-être lutter pour sortir de cette société où Dieu est le chef de l'homme et l'homme le chef de la femme. Ne l'oublions jamais, et que cela est quasi valable sur la totalité de la planète, en fait. Hein. On peut aussi se dire que la justice peut donc arrêter de déclarer consentante une enfant de 11 ans victime de viol, ça serait bien. On peut aussi arrêter de culpabiliser les victimes. On peut arrêter de traiter les victimes au choix de menteuses ou d'allumeuses. Mmh. On doit arrêter de se taire aussi quand on sait. Quand on sait, on ne se tait pas, parce que là, c'est pareil, là je prends le cas de Weinstein, mais je pense que c'est bien exposable à plein d'autres cas. Maintenant, plein de gens savaient. Je prends l'exemple de Quentin Tarantino, par exemple, qui effectivement savait depuis des années, et plein de gens savent. Pourquoi on ne fout pas sa gueule à un moment donné ?
Et je prends aussi l'exemple de Bruno Le Maire, cher ministre de l'économie, qui en fait disait moi je suis pas pour la dénonciation, sauf qu'il a confondu deux choses. Mmh. C'est pas de la dénonciation dont on parlait, c'est de la délation dont il voulait parler. La délation, c'est quand vous donniez un juif pendant la guerre, et il essaye de faire un parallèle foireux qui n'existe pas. Dénoncer un crime, dénoncer quelque chose, c'est la moindre des choses, c'est juste dire il y a quelque chose d'inadmissible qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec la délation, donner quelqu'un pour des raisons qui sont inadmissibles. Et en fait, ils essayent de faire un parallèle pour essayer de dire, c'est pour ça qu'on parle pas. Mais sauf que ça n'a rien à voir, en fait. Et le pire étant Éric Zemmour qui comparait le balance ton porc avec le balance, en disant, ça aurait été balance ton juif pendant la guerre. Non, ça aurait été plutôt balance ton collabo.
Oui, hein,
pour être clair, vous voyez, c'est pour qu'on comprenne un petit peu. Il faudrait un jour qu'on branche Éric Zemmour.
Qu'on le débranche complètement. je continue dans tout ce qu'on peut faire. Et on peut aussi soutenir les victimes, les écouter. C'est une des premières choses, je pense, qu'il faut qu'on fasse. On peut aussi les accompagner dans leur démarche, si elles le souhaitent. On ne force personne à faire quoi que ce soit. C'est chaque personne qui décide de son parcours, de sa démarche. Et on peut peut-être aussi apprendre dès le plus jeune âge, et répéter, et répéter, et répéter jusqu'à ce qu'on crève, en fait, qu'on a toutes et tous le droit d'être respectés, on a toutes et tous le droit de ne pas être chosifiés, mais on a aussi le droit de respecter les autres et de ne pas les chosifier. Mmh. Souvent, quand on est avec un bout de peau en plus entre les jambes, souvent on a tendance à croire que chosifier les gens, c'est une norme. Et donc, on peut aussi interroger nos propres comportements, les modifier. On doit aussi marteler que seul un oui est un oui, en dehors de lui, il y a rien, ok, et que rien, absolument rien, ne doit être fait sans le consentement de chacun et de chacune. Et ça, en fait, ces choses-là, ça marche pour tout, en fait. C'est pour tout, dans nos rapports, dans nos relations. Et que donc, je pense qu'on peut mettre fin à cette société sexiste. Et que donc, on peut choisir de détruire le pouvoir où qu'il est, où qu'il se cache. Et on va le débusquer, en fait. Et s'en défaire. Donc voilà, c'était un peu mes réflexions. Ça vous a peut-être nourri ou pas. Vous avez peut-être dit, il est complètement fou. Je rajouterai juste qu'on mettra, comme souvent, enfin quand on parle des viols et des agressions sexuelles, les liens, les numéros de téléphone pour les assos, etc., les lignes d'écoute pour toutes celles et ceux pour qui ça pourrait être utile. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter.
Merci, c'était bien. Non, mais parce que c'est moi, j'en ai marre d'entendre comme toi qu'on déshumanise ce qui ne relève que des humains.
C'est ça.
Non, puis c'est quelque part, c'est enlever la faute, enfin la faute. J'aime pas ça un terme religieux, mais la responsabilité du violeur, oui, ou de l'agresseur, quel qu'il soit, ou de toute manière de la personne qui prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre. On le déresponsabilise en inventant un être qui n'existe pas, un monstre.
C'est ça.
Une idée de bah voilà, bah non, moi je suis pas un monstre, mais je suis, enfin, pendant la prépa, on parlait des tueurs en série, qui sont des gens bien sous tout rapport. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, ça, c'est pas marqué, hein, c'est pas comme le port salut, bah, c'est pas marqué dessus.
Sinon, ils pourraient pas tuer autant de monde sans qu'on les attrape.
Exactement. Ouais, c'est le principe. Et pareil pour les vieux. Enfin, tu disais que, voilà, l'agression sexuelle, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Et oui, malheureusement, c'est le cas, hein. Faut se réveiller là-dessus aussi. La plupart des mecs qui s'imaginent que mettre un doigt à une meuf, même si elle était pas d'accord, c'est pas une agression sexuelle, c'en est une. La plupart des mecs qui s'imaginent que toucher des fesses ou des seins, c'est juste pour faire pouet-pouet, camion, pompier. Non, ça marche pas.
Que faire un bisou quand la personne ne le veut pas, c'est déjà pour moi une agression sexuelle. Alors après, je suis peut-être trop, je ne sais pas quoi.
C'est une marque de l'idée que même si la personne elle le fait sans conscience de domination, ça veut dire que notre société l'autorise à se dire bah il y a pas de problème, je peux foutre mes lèvres sur la joue, la bouche, le corps de quelqu'un d'autre. Eh, c'est sexuel, mec.
C'est ça. Bah il y a autour des gens en fait. Pour moi, on a une sorte de couche, comment on peut dire,
d'espace privé.
Oui, c'est ça, on a un espace privé et que bah, à partir du moment où on le touche sans l'accord de l'autre, on n'est plus dans quelque chose où il y a consentement, on est dans l'agression.
Comme pour les vampires, hein. T'es pas invité, t'as pas le droit d'entrer.
On peut voir ça comme ça aussi.
Non, on parlait de monstres alors, donc,
Effectivement.
Même les monstres, on les tient à distance.
Eh ben, on passe à la musique, oui, avant des brèves rapidement.
Sadel, Pastaga, Puntarel, Poulaga, Portagruel, Gargantua, Evin Thomas n'a pas fait son choix. Portadel, Pastaga, Puntarel, Poulaga, Portagruel, Gargantua, Evin Thomas, Thomas Estra.
Éclabours, le péage de Roussillon, l'état de bois, des lits de Bourgogne. Dimanche à balai, satané, saison. À 16 ans, pire que tourner la page de la raison. Les résidus de colère, les raisons de ma colique. Un surplus d'alcoolisme, un air mélancolique. Mes acolytes résidents, il y a 35, allez, Roubi, Yol, un permis en bagnole. Sur 16, sur 100, infesté de fistules. Un furon au sommet de ta péninsule. On défouille ton rade avec des pétarades. On pourrit ta barade, on pollue ton barrage. On bourrine ton phare, on boulette ton gîte. On carotte les boulettes dans les poches de ton gîte. On te file, on loose des, notre inopharagite. On pull up le rythme dans ta baraque anime. Vite, on va, tout est valorisé. Tes darons, barons, ta maison dans le Luberon. Même tes valeurs seront dévalorisantes. Tu seras la risée de toutes les résidences.
L'urbanisme fait son effet, mange, sans effort. La foule m'entraîne, lol, rien,
mange,
tab, à la merci d'un courant d'air, de l'amertume, à la sauvette, lol,
mange,
tombe,
tab,
dans la mesure du raisonnable. C'est aliénant de ne rien faire,
rien,
mange,
lol,
con,
mange,
con,
lol,
con,
mange,
con,
lol,
con,
con,
mange,
rien.
Dab. Je fume des clopes, un insecte me pique sous une lune de Pâques. Pas de quoi faire un clip,
non.
Retourne ton masque, on n'est pas dans un cirque. Quand on fend la mer sur un bateau à moteur, le classement général, le meilleur grimpeur, laisse au Tour de France le podium des vainqueurs. Forcément vient le vent, mais seul, il ne soulève pas la tongue de la grand-mère d'un thug.
T'as cru que t'allais prendre mon bob,
Dylan, mais non, lui répond le dadon de rechef. C'est Sacha, Distel, tout en toi qu'a chopé ton chapeau, ton petit couvre-chef. La dite à Sacha de lui rendre son bob, Dylan. Sacha Distel. On t'a vu, fais pas genre, t'as pas volé son bob. On sait bien que tu m'étonnes que t'as volé son bob, vu que tu le portes sur la tête. À l'instant, je te répète de lui rendre le bob que tu portes sur la tête.
T'as cru que c'était la fête pour me piquer mon bob?
Dylan,
mais tu marches sur la tête. Elle a de la mort, ta dette, pas de pastaga. Elle veut des puntarel, y'a que des poulaga. Portagruel, Gargantua. Evelyn Thomas n'a pas fait son choix. Elle a de la
mortadelle, pas de pastaga.
Elle veut des puntarel, y'a que des poulaga. Je répète, Portagruel, Gargantua. Evelyn Thomas n'a pas fait son
dab.
Mortadelle, pastaga. Puntarel, poulaga. Portagruel, Gargantua. Evelyn Thomas, pastaga. Poulaga, Gargantua. Evelyn Thomas.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h et un peu plus, très souvent. Et on vient de s'écouter Les Chevals Hongrois avec le titre Puntarel. Et tout ça, c'est issu de leur nouvel album qui est sorti aujourd'hui. Alors, de manière uniquement virtuelle, mais en tout cas, vous pouvez aller sur Internet et tout leur album, comme toute leur production est en téléchargement libre et gratuit. Donc voilà, vous tapez Les Chevals Hongrois et vous trouverez tout ça. Et si vous pouvez aller voir le clip, il est merveilleux. On sent les grands moyens.
Il y a des effets spéciaux dedans.
De dingue.
De dingue.
De dingue. Sacha Distel, enfin Bob Dylan, c'est vraiment complètement fou. Pardon. Eh ben, vu qu'on est à la bourre, on va passer aux brèves.
Et oui, eh ben, je vais brèvement prêter ma voix aux brèves. Donc, comme tous les lundis, rendez-vous à la permanence d'entraide juridique pour les sans-papiers et leurs proches à la Lutine. Donc, toujours au 91 rue Montesquieu, toujours dans le 7e à Lyon. Et toujours de quelle heure à quelle heure?
De 18h30 à 20h, j'ai oublié de l'écrire.
Merci Fab. Donc, ce sera lundi 23 octobre. Mercredi 25 octobre, on fait la pause mardi, on passe à mercredi. Dans le cadre du mois de novembre libertaire et proposé par le groupe Table Rase, il y aura la diffusion du film d'Amandine Gay qui s'intitule « Ouvrir la voie ». C'est un film qui propose de donner la parole à des femmes noires qui ont la particularité d'être en lien avec l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Les entendre pour mieux ouvrir et donner de la voix, comme l'intitule l'événement, c'est au Cinéma Opéra, au 6 rue Joseph Serlin, dans le 1er arrondissement à Lyon, et ce sera à partir de 20h, donc mercredi 25. Jeudi 26, c'est du théâtre, Théâtre Forum sur la domination masculine. Et si c'était nous, quel rôle jouent les hommes dans l'oppression faite aux femmes? Quelles attitudes un homme peut-il adopter face au comportement sexiste de ses semblables? Quelles solutions trouver et mettre en place pour déjouer ces mécanismes? Dans le cadre du festival Novembre Libertaire, donc, il est proposé de mettre en place un théâtre forum sur la question du sexisme et de la domination, de la domination masculine. Et donc, pour avoir toutes les informations, ce sera sur maxtheatreforum@gmail.com. Donc, je pense qu'il suffit d'envoyer un petit mail pour avoir toutes les infos.
Et,
donc,
et Max Théâtre sans accent.
Voilà, maxtheatreforum@gmail.com sans accent. Et on mettra sur le blog l'adresse mail, je pense.
Non, on va renvoyer les gens sur novembrelibertaire.net.
Alors, on envoie les gens sur novembrelibertaire.net.
Voilà.
Pour retrouver l'adresse Gmail de Max Théâtre Forum. Vendredi 27 octobre, donc le lendemain, à partir de 20h, c'est une soirée d'observation publique du ciel avec le club d'astronomie de Chaponnet en présence de Georges, notre...
Et ça, c'est une super guest star quand même.
J'avoue, c'est notre astronome à nous. Et donc ce sera à la Maison des Associations sur la route du stade, donc à Chaponnet. Donc voilà, c'est derrière l'espace Jean Gabin, en face des terrains de tennis. Alors attention, s'il y a trop de nuages, ça peut être annulé puisque l'observation sera impossible. Donc en cas de mauvais temps,
c'est
voilà,
logique.
Prévoyez un plan de secours.
Et peut-être que vous croiserez des gens de la causerie là-bas.
Voilà, c'est possible.
Peut-être c'est possible.
Oui, et puis comme dit, c'est aussi une invitation à, si vous suivez les émissions astronomiques, etc., ouais, qu'on fait avec Georges, eh ben, ça peut aussi être un moyen intéressant justement de passer de l'écoute, on va dire, un peu passive à une observation plus active de ce qui est au-dessus de nous, quoi.
Et voilà. Puis de bénéficier de l'expérience des astronomes, oui, amateurs, oui, de Chaponnet, ouais, et donc d'informations si vous êtes intéressé par l'astronomie complémentaires.
Grave.
Et pour finir, dimanche prochain, dans la causerie, on recevra ADMD, donc l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Ce sera à 22h, donc toujours sur Radio Canu, toujours sur 102.2 et toujours avec la causerie.
Et oui, voilà.
Voilà, et on se quitte en musique avec un petit morceau que j'aime beaucoup. Qui a tendance, enfin voilà, c'est beaucoup d'amour, c'est placebo, c'est embrasse-moi et mets ton doigt dans mon cul.
Voilà.
Des bisous.
Et c'est deux, tu l'as dit ?
Placebo.
Ok, ouais.
Ouais. Des bisous. Enfin, Brian Molko.
Yes. Oui. C'est très dansant d'ailleurs.
C'est très dansant, ouais. C'est mignon, vous allez voir. Allez, je vous souhaite une bonne semaine.
Elle a un peu honte de son titre, elle veut qu'on coupe vite. Elle dit coupe, coupe.
Eh bien, bonne soirée, bonne semaine à toutes et à tous. Oui. À la semaine prochaine, on l'espère.
Oui. Et la semaine prochaine, la technique sera pas assurée par Jean-Yves.
Ah bon ?
Ouais, parce que j'ai mal fait mon travail, j'ai reçu un message du patron.
T'es viré.
Non, je plaisante.
Que quand il y a absence de quelqu'un qui fait très bien la technique, on essaie de se relayer pour se refaire nous aussi un peu la main.
On fait du participatif.
C'est ça, parce qu'on rappelle que Radio Canu, c'est associatif et qu'il n'y a pas de professionnels, tout ça, tout,
tout
ça. On fait tout nous-mêmes.
Voilà, que des bénévoles, des amateurs qui aiment les choses.
Yes. Bonne soirée, bonne semaine. Ciao.
Bisous.
Bisous.
La viande est synthétique.